bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 juillet. Covid-19, la règle des 4 appliquée hors de la région de Séoul. Séoul envisage le rapatriement de tous les membres de l'unité Chang'e suite à des cas de contamination. Les dirigeants sud-coréens et vietnamiens se sont parlé au téléphone. Enfin, jour férié alternatif, le système étendu à 4 autres fêtes nationales. Le Covid-19 continue d'inquiéter. Au total, 1536 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Si le chiffre est en légère baisse par rapport à la veille, il s'agit du troisième plus important bilan depuis l'apparition de l'épidémie en Corée du Sud. À Séoul et dans sa couronne, on compte 75% des 1476 contaminations locales. Le virus poursuit sa progression aussi hors de la région métropolitaine. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a décidé d'illimiter à 4 au maximum le nombre de personnes pour un rassemblement privé avant 18h, comme c'est déjà le cas dans la région métropolitaine. Lors de la conférence quotidienne du centre de gestion de crise, le Premier ministre a pointé du doigt l'application de différentes jauges de 4 à 8 personnes selon les collectivités locales, ajoutant que cela pouvait provoquer une confusion. Côté vaccination, pas moins de 15 960 000 personnes ont reçu au moins une première dose et quelques 6 320 000 les deux injections. D'autre part, les quelques 300 militaires et membres d'équipage de l'unité Chang'e de la marine, actuellement déployés dans le golfe d'Aden au large de la Somalie, vont être rapatriés au plus tôt. La raison, alors qu'ils sont en mission anti-piraterie à bord du destroyer de 4400 tonnes Moonmoo le Grand, 6 d'entre eux ont contracté le Covid et pas moins de 80 autres sont placés à l'isolement. Leur commandant a fait état de ce projet à leur famille. Si la décision est actée, leur évacuation sera effectuée par des avions de ravitaillement de l'armée de l'air, vraisemblablement entre le 19 et le 25 juillet. Les discussions ont commencé sur les moyens de rapatrier aussi le vaisseau. L'une des pistes étudiées est de dépêcher sur place un capitaine du destroyer Jongmugong Isunshin, du même type que le Moonmoo le Grand, ainsi qu'un équipage minimal. D'après l'état-major interarmé sud-coréen, pour le moment, la majorité des soldats malades présentent des symptômes bénins et 5 d'entre eux nécessitent un suivi supplémentaire en coopération avec les hôpitaux locaux. Un test PCR sera aussi pratiqué sur l'ensemble des membres de l'unité. Et pendant ce temps, le gouvernement va fournir des kits de dépistage et des masques aux expatriés sud-coréens en Birmanie, actuellement en proie à une propagation rapide du Covid-19. D'après le ministère des Affaires étrangères, Séoul projette également d'envoyer progressivement à partir de mardi prochain et par valise diplomatique 26 concentrateurs d'oxygène à la communauté sud-coréenne sur place. Passons à la politique. Le président de la République a eu hier un entretien téléphonique avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, le premier depuis que celui-ci a été reconduit à son poste en janvier pour un troisième mandat. Moon Jae-in a félicité Nguyen Phu Trong pour sa réélection. En retour, l'homme fort du Vietnam a complimenté la Corée du Sud pour sa récente reconnaissance comme pays développé par la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les deux dirigeants sont ensuite convenu de coopérer afin de développer davantage les relations entre leurs pays, qui maintiennent actuellement celles de partenariat de coopération stratégique. Moon a évoqué le fait que Hanoï est un partenaire essentiel pour la nouvelle politique du Sud de son gouvernement, le 4e partenaire commercial du pays du matin clair, qui lui est le premier investisseur étranger au Vietnam. Dans la foulée, il s'est attendu à coopérer pour porter jusqu'à 100 milliards de dollars le volume des échanges commerciaux bilatéraux d'ici 2023. De son côté, le numéro 1 du PCV s'est engagé à élargir les investissements de son pays afin d'atteindre cet objectif, sans oublier de rappeler que Séoul est au cœur de la coopération de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, l'ASEAN. Le chef de l'État sud-coréen en a profité pour saluer le fait que le pays d'Asie du Sud-Est a choisi le coréen comme l'une des premières langues étrangères à l'école et qu'il a soutenu les efforts de Séoul pour instaurer la paix dans la péninsule en accueillant en février 2019 le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. et d'appeler ce membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à jouer un rôle pour renouer au plus vite le dialogue avec Pyongyang. Les deux hommes ont aussi affiché leur volonté d'agir ensemble pour rétablir la paix et la stabilité en Birmanie.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
L'administration de Joe Biden active sa diplomatie vis-à-vis de l'Asie du Nord-Est, au cœur de laquelle elle veut remettre ses politiques chinoises et nord-coréennes. Pour concrétiser ses grandes manœuvres, sa sous-secrétaire d'État Wendy Sherman prévoit une tournée asiatique entre les 18 et 25 juillet, qui la conduira successivement, selon son ministère, au Japon, en Corée du Sud et en Mongolie. La numéro 2 de la diplomatie américaine entamera donc son voyage à Tokyo, où elle et ses homologues sud-coréens et nippons se réuniront dans le cadre du dialogue stratégique des trois pays, le premier en 4 ans. La coopération tripartite face à la Corée du Nord et la Chine dominera leurs conversations. À Séoul, Sherman s'entretiendra notamment avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-gun et sur le changement climatique et l'économie post-Covid, entre autres. Il pourrait également échanger sur la possibilité de reprise du dialogue, non seulement entre les deux Corées, mais aussi entre Washington et Pyongyang, d'autant que l'administration de Moon Jae-in souhaite le relancer avant la fin de son quinquennat qui expirera en mai 2022. La Nouvelle-Zélande, qui assure cette année la présidence tournante de l'APEC, organisera aujourd'hui par liaison vidéo une réunion extraordinaire de ses dirigeants de ce forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique. Objectif, se pencher sur les mesures de lutte contre le Covid-19 en amont du sommet annuel de l'organisation prévu en novembre. Les présidents américains, chinois et russes prendront part à cette visioconférence qui débutera à 20h heure de Séoul. Les trois dirigeants se retrouveront ensemble en ligne pour la deuxième fois depuis le sommet mondial sur le climat, réuni en avril par Joe Biden. La Corée du Sud sera représentée par son premier ministre Kim Boo-gyum. À aider la région à traverser la crise sanitaire et à accélérer la reprise économique, tel sera le grand sujet de discussion. Une déclaration finale en ce sens sera publiée à l'issue de la rencontre. Créée en 1989, l'APEC compte 21 pays membres de l'Asie-Pacifique. Pas moins de 50 millions de cas positifs au Covid-19 ont été confirmés et plus d'un million de décès ont été recensés dans cette zone. Présidentielle 2022, l'adhésion hier de Choi Jae-hyung au Parti du pouvoir du peuple semble avoir modifié en faveur de ce dernier son rapport de force avec les autres candidats indépendants potentiels à la présidentielle. En effet, l'ancien président de la Cour des comptes, considéré comme l'un des prétendants favoris à l'élection, a déclaré que l'axe principal de l'alternance politique devrait se situer au niveau de la première force de l'opposition. Par ailleurs, cette démarche devrait rendre plus intéressant aux yeux des électeurs le processus de la primaire du camp conservateur, alors que déjà 9 ténors, dont le député Hong Jun-pyo, l'ex-élu Yoo Seung-min, le gouverneur de l'île de Jeju, Won Hee-liang, ainsi que l'ancien patron du parti, Hwang Yo-han, ont présenté leur candidature à ce scrutin préliminaire. Ainsi, la direction du PPP se montre plus confiante quant à la perspective de remporter la présidentielle sans l'aide de personnalités extérieures. Dans ce contexte, Yoon Song-yeol, l'ex-procureur général et l'un des favoris des sondages, envisagerait néanmoins de suivre pendant un certain temps au moins sa propre voix afin d'écouter davantage les avis des citoyens. Un mot d'économie. Suite à la publication mercredi du plan global de la Commission européenne fixant son nouvel objectif de réduction des émissions à gaz à effet de serre, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie a tenu hier en urgence une visioconférence avec les responsables des industries de l'acier et de l'aluminium. En Corée du Sud, ce sont surtout ces producteurs d'acier et d'aluminium qui devraient être les plus affectés par cette nouvelle réglementation. Ainsi, le gouvernement envisage de faire le point sur le système domestique concernant le mécanisme d'ajustement aux frontières et d'organiser régulièrement des réunions avec les ministères et les secteurs concernés. Il projette en particulier d'élaborer, avant la fin de cette année, différents soutiens aux industriels visés par ce traité européen, tels que des aides fiscales et financières et la recherche et le développement sur la neutralité carbone. Enfin, une bonne nouvelle, le gouvernement a décidé d'appliquer le système dit de jours fériés alternatifs à quatre autres fêtes nationales majeures du pays, à savoir l'anniversaire du mouvement d'indépendance du 1er mars, la libération de la Corée le 15 août, la fondation légendaire de la Corée le 3 octobre et enfin la journée du Hangul le 9 octobre. Ainsi, dès cette année, les lundis suivants ces jours fériés qui tombent un week-end seront désignés comme jours fériés alternatifs. Ce système était jusqu'à présent applicable à 7 jours fériés seulement, les congés de Chuseok et de Solnal, soit 3 jours respectivement, et la fête des enfants qui tombe le 5 mai. Ainsi, 11 jours fériés sur un total de 15 seront désormais soumis à ce dispositif. C'est la fin de ce journal présenté par Thierry Lapenche. Merci de votre fidélité et bon week-end à tous.